Donc, toujours dans l'intergénérationnel, les jeunes élèves de seconde SSP, si je ne me trompe pas, sont allés rencontrer des anciens du Clos Saint-Jean. Et grâce à l'initiative de leurs professeurs, hein, Marilyn Naudon et Dimitri Detel, ils ont pu recueillir des témoignages sur les loisirs tels qu'ils ont été vécus par les anciens dans un établissement. Et donc, les jeunes, je vous invite à monter et puis à lire vos témoignages. Ça sera avec grand plaisir que nous allons vous écouter. On les applaudit pendant qu'ils montent et on les applaudira après, bien sûr.
Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Neila, je suis au lycée et grande. Et je vais vous lire un recueil d'un souvenir des personnes avec qui on a travaillé. On va vous lire une histoire d'une partie de Ballon prisonnier et de Marelle. La cour de l'école, en ce jour de 1952, était emplie d'un brouhaha joyeux. Les filles s'étaient rassemblées au centre pour débuter leur jeu préféré, le ballon prisonnier. L'air était électrique, mêlé d'excitation et de compétition amicale. Au centre du terrain, Mireille et Janine partageaient une équipe, tandis que Marie-Ève et Christiane étaient dans l'autre. Je me tenais parmi mes coéquipiers, prête à jouer. Le cercle se forma rapidement, chacun prenant place selon une stratégie bien pensée. La nôtre était deux filles à l'avant et deux à l'arrière. Le ballon donné par l'institutrice, usé par des années de jeu, passait de main en main jusqu'à ce qu'il soit lancé avec force sur Mireille. Elle attrapa le ballon et sourit avant de viser Christiane. Celle-ci tenta d'éviter le tir, mais le ballon toucha son épaule. Elle resta figée un instant, puis éclata de rire avant de courir dans la zone des prisonnières. Le jeu continua à la fin avec plus d'intensité. Marie-Ève était rapide et esquivait les tirs, tandis que Janine attendait le bon moment pour frapper. Soudain, Mireille lança le ballon très fort. Marie-Ève sauta pour l'attraper, mais elle tomba sur le sol en soulevant un petit nuage de poussière. « Ça va ?» demanda Christiane depuis la zone des prisonnières. Marie-Ève se releva en riant, les genoux pleins de poussière, mais toujours motivée finalement. Mireille et Janine gagnèrent la partie en touchant le dos de Christiane, la dernière éliminée de l'équipe. Essoufflées mais fières, elles se tapèrent la main, entourées de leurs camarades. La cloche sonna, annonçant la fin de la récréation. Les filles, encore excitées, ramassèrent le ballon, le donnèrent aux institutrices et coururent vers leur classe, déjà impatientes de rejouer à la prochaine récréation.
Le lendemain, dès la cloche de la récréation, Marie-Ève s'approcha de Janine et Mireille avec un sourire déterminé. Revanche, mais cette fois, si on est éliminé, on peut revenir en réussissant un parcours de Marelle. Les filles acceptèrent avec enthousiasme. Le jeu commença vite. Marie-Ève était plus stratégique. Elle lança le ballon et élimina Janine rapidement. Janine courut vers la Marelle, concentrée. Elle sauta de case en case, évitant les lignes. Mais à la dernière case, elle perdit l'équilibre et tomba. Elle ne put pas revenir en jeu.
Mireille lança un tir puissant et élimina Christiane. Mais Christiane courut vers la Marelle, sauta avec agilité et revint en criant « Je suis de retour !» Le jeu s'accéléra. Les filles passaient du ballon à la Marelle, enchaînant élimination et retour. À la fin, Mireille et Marie-Ève restèrent seules. Mireille lança le ballon et toucha Marie-Ève. Essoufflées mais contentes, elles se tapèrent dans la main en riant. « On rejoue demain ?» proposa Marie-Ève. Le défi était lancé.
Bonjour à tous et à toutes. Alors nous, on va vous présenter un texte sur les petits chevaux.
Alors, comme tous les dimanches soirs d'hiver, Après le dîner, ma famille et moi, nous nous installions dans la cuisine. La seule pièce chauffée de la maison. Le poêle à charbon, placé contre le mur, diffusait un peu de chaleur. Mais le froid restait présent. La table en bois était au centre, entourée de quelques chaises dépareillées. Avant de jouer, ma sœur et moi devions aller chercher du charbon. Nous remplissions un seau et le ramenions à l'intérieur. Nos mains étaient noires à cause de la poussière. Une fois le poêle ravivé, nous pouvions enfin commencer à préparer la partie.
Je me levais pour aller chercher la boîte de petits chevaux dans la bibliothèque. Elle était abîmée, témoin de nombreuses parties que nous avions jouées. Je la posais, le jeu sur la table, et je pus enfin m'asseoir. Ma mère, assise à côté, ajustait son châle sur ses épaules. Elle le portait tout le temps en hiver pour se protéger du froid, qui était toujours vif malgré le poêle. Avant de commencer, mon père me donnait une poignée de pruneaux secs qu'il avait préparés lui-même. Ces petits fruits nous paraissaient un luxe lors de ces temps de restriction dus à la guerre. Je savourais alors chaque fruit comme si c'était le dernier. La petite cuisine était sombre, éclairée faiblement par une lampe à huile, et l'on pouvait entendre en fond la radio de la BBC. Il ne nous fallait pas plus longtemps pour être heureuse. Les règles des petits chevaux sont les suivantes. Chaque joueur choisit 4 chevaux de la même couleur placés dans leur écurie. Le but du jeu est de faire entrer tous ces chevaux dans la maison située au centre du plateau. Le jeu commence par le lancer d'un dé. Pour sortir un cheval de l'écurie, un joueur doit obtenir un 6. Une fois qu'un cheval est sorti, il peut avancer sur le plateau selon le nombre de points obtenus sur le dé. Les chevaux avancent en suivant un parcours en forme de carré, avec une croix au centre qui marque l'arrivée. Si un joueur atterrit sur une case occupée par un cheval adverse, ce dernier est renvoyé à son écurie. Les joueurs continuent à lancer le dé, avançant leurs chevaux jusqu'à ce qu'un joueur réussisse à amener tous ses chevaux dans la maison au centre du plateau. Ce joueur est alors déclaré vainqueur de la partie.
Pendant les parties de jeu, mes parents m'ont toujours dit d'être exemplaire vis-à-vis de ma sœur. Et comme c'était la plus petite, on la faisait toujours commencer en premier. Tout a commencé dans une ambiance joyeuse. Chacun avançait ses chevaux au gré des dés, essayant d'échapper aux pièges des autres. Très vite, la compétition s'est intensifiée. Ma sœur, qui était très mauvaise perdante, s'est retrouvée en difficulté. Elle voyait ses chevaux se faire envoyer à la case départ par mes parents et moi. Son agacement montait. À chaque coup de dé malchanceux, son visage se crispait un peu plus. Puis ce qui devait arriver arriva, elle perdit une nouvelle fois, furieuse. Elle balaya le plateau d'un grand geste de la main, les chevaux et les dés furent alors projetés au sol. Mon père soupira, ma mère tenta de la calmer, quant à moi, j'éclata de rire devant son air vexé. La partie s'acheva dans le chaos. Suite à ça, ma sœur déclara qu'elle ne jouerait plus jamais aux petits chevaux, du moins jusqu'à la prochaine fois.
Le voyage à Tahiti. Quand j'étais plus jeune, le souvenir le plus important, c'était ce fameux voyage à Tahiti. Pendant nos vacances et quelquefois les week-ends, quand on pouvait, nous partions, mes enfants, mon mari et moi, au camping de Sanguinet, dans le département des Landes, avec notre caravane pour rejoindre mon beau-frère et sa compagne.
Nous profitions de ces moments en famille. Mon beau-frère avait un bateau à moteur stationné dans le port de Biscarrosse, juste à côté de notre camping. Parfois, il nous proposait, en plaisantant, histoire de faire rigoler la galerie et de nous faire oublier que nous n'étions qu'au bord d'une simple plage, au bord d'un lac, de faire ce fameux voyage à Tahiti. Alors, on y allait avec les enfants. Il arrivait aussi que l'on sorte entre adultes, sans enfants, pour décompresser et se reposer.
Le matin, nous partions aux alentours de 10 heures à pied pour rejoindre le port de Biscarrosse. Les hommes nous aidaient à monter sur le bateau et à nous installer avant de partir en balade pour la journée. Une fois tout en place, nous partions à la recherche d'une petite plage pour pouvoir se baigner, pique-niquer et bronzer. Le début du trajet se passait bien pour moi, mais je rentrais vite dans la cabine à cause de mon mal de mer.
Une fois arrivés à la petite plage, aux environs de 11h30, on descendait pour pouvoir manger et profiter de ce moment de détente pendant que les enfants jouaient dans l'eau. Vers 14h, on rangeait tout pour partir et retourner tranquillement au camping. Arrivé au camping, à 16h à peu près, on retournait dans nos caravanes pour ranger les affaires et préparer le repas pour le soir. Ensuite, on se rejoignait tous dans notre caravane pour prendre la soupe et faire des jeux de société ensemble avant d'aller se coucher. Les vacances se passaient si vite. J'aurais aimé qu'elles ne se terminent jamais et pouvoir rester là-bas.
C'est le souvenir le plus jeune que je me rappelle et l'un des plus marquants de ma vie, car j'avais mon mari et mes enfants à mes côtés, ce qui m'a beaucoup apporté. car je suis une fille unique et les avoir été la meilleure des compagnies que je puisse avoir. Ce souvenir est rempli de bonheur et de joie malgré le brouhaha des enfants quand ils étaient tout excités, mais ce n'est que du plaisir de les savoir contents et heureux avec ce qu'on leur donnait et ce qu'ils avaient. C'était des moments de détente avec la famille.
Les vacances en camping, en famille, c'est tellement spécial. Rien de mieux que de passer du temps ensemble, de rire autour des jeux, de société, de faire des balades en nature et de partager de délicieux repas en plein air ou dans la caravane. Ces moments de bonheur et de joie en famille restent gravés dans nos cœurs pour toujours.
Ce souvenir me rappelle des moments spéciaux de ma vie. Ça fait revivre des émotions, à renforcer des liens avec les gens qu'on aime et à nos souvenirs, des leçons qu'on a apprises. Les souvenirs me façonnent et me rappellent d'où je viens, ce qui est super important pour moi. Comme on dit, c'est un trésor qu'on garde, dans notre cœur.
Plus jamais.
Bonjour à tous. Notre texte, il parle de la marelle. Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier, bien que cela fasse déjà si longtemps. Quand j'allais à l'école, je jouais à la marelle pendant les pauses et les récréations avec mes amis Pierre, Madeleine et Armande. Avant de commencer à jouer, je devais tracer la marelle soit avec un bâton dans le sable de la cour, soit avec une craie sous le préau les jours de pluie. Je traçais la marelle avec Pierre, Madeleine et Armande, ce qui nous permettait aussi d'apprendre à compter. Par la suite, je choisissais une pierre. Celle-ci devait avoir plusieurs qualités. Être plate, pour glisser facilement, et légère pour que je puisse atteindre les numéros les plus éloignés de la terre. Le premier à jouer était toujours Pierre, car c'était le seul garçon, et surtout le plus jeune. Pierre se mettait sur la terre, la case où on se positionnait avant de commencer le jeu.
Il lançait la pierre dans une case et sautait par-dessus. Il se retournait, se baissait, pour ramasser la pierre tout en évitant de tomber. Pierre était agile, à cloche-pied, il avançait vite et avec équilibre. Il continuait de sauter de case en case, atteignant le ciel et revenant sans tomber. Il finissait par gagner. Armande, Madeleine, était heureuse pour Pierre et c'était ensuite aux filles de commencer à jouer. À cette époque, les jeux ne créaient pas de conflits. C'était un moment de partage, d'encouragement, de bonheur et de liens profonds. Un moment de liberté, le seul moment où Pierre, Madeleine et Armande avaient l'occasion de s'amuser et de rigoler. Ce n'était pas qu'un jeu pour gagner, personne ne se battait. Tous étaient heureux, qui perdent ou qui gagnent. Ils étaient contents pour le gagnant et ne ressentaient aucune jalousie. Ce moment était précieux car il rappelait que l'essentiel n'était pas de gagner, mais de profiter ensemble de l'instant, de la simplicité et de la joie partagée.
Colin Maillard, le souvenir de Jean-Marie, Jacqueline et René. Je me souviens quand j'étais enfant à l'école, dans la cour, avec mes camarades, pendant la récréation, qui durait une trentaine de minutes, on jouait à un jeu qui s'appelait Colin Maillard. L'enseignante me désignait et l'un de mes camarades ou moi prenions mon foulard pour me bander les yeux. Ensuite, tous mes camarades se mettaient en ronde debout autour de moi et tournaient tous en même temps, eux dans un sens et moi dans l'autre. Les yeux bandés, je devais donc retrouver et reconnaître un de mes camarades. Eux, pendant ce temps, devaient rester immobiles et se taire. Quand on faisait ce jeu, il n'y avait aucun bruit. La cour était emplie d'un grand silence, parfois interrompu par un éclat de rire. J'essayais de reconnaître un de mes camarades, même si à cette époque, c'était compliqué, car on était tous habillés pareil, avec des blouses, et c'était difficile de les reconnaître par leurs seuls vêtements. Les éléments qui pouvaient nous aider à les identifier étaient leur corpulence, leur taille, leurs cheveux. Il fallait alors les tâter et essayer de procéder par élimination. Mais c'était compliqué. Lorsque nous avions de la chance, nous tombions sur un camarade qui avait des lunettes. Il était rare, mais cette rareté nous aidait.
Quand je pensais avoir identifié une personne, je criais son nom haut et fort au milieu de mes camarades. Si le nom était bien celui de la personne que j'avais attrapée, je pouvais triomphant rejoindre la ronde. Un autre camarade était désigné pour avoir les yeux bandés et le jeu reprenait. En revanche, quand je me trompais, j'allais à la prison. Dit autrement, ça voulait dire que j'étais éliminée. Bon, des fois, c'est vrai, on se chamaillait un peu. Il y a toujours quelqu'un qui cherchait à regarder malgré le foulard qui nous cachait la vue. Des personnes qui essayaient de tricher, un peu comme dans tous les jeux. Malheur à celui qui osait, car tous les joueurs s'en prenaient à lui et le chahutaient. Quand la maîtresse tapait dans ses mains, le jeu était fini et on regagnait les salles de classe. Mais dès la récréation suivante, nous reprenions notre partie, car en dehors de l'école, nous n'avions pas beaucoup de temps à consacrer aux loisirs et aux jeux. En effet, à cette époque-là, il fallait qu'on aide nos parents à faire à manger, à mettre la table, à s'occuper des animaux de la ferme. On devait aussi s'occuper de nos frères et sœurs si nous en avions.
Alors, bien sûr, je vous demande d'avancer, parce que je pense que tout le monde est convaincu qu'il faut beaucoup de courage pour lire devant 200 personnes, il faut beaucoup de générosité pour venir, il faut aussi tout un travail pour recueillir les témoignages et puis après les mettre en forme. Donc je vous demande de vraiment les applaudir, pas devant moi. On remercie aussi les enseignants qui ont coordonné. Bravo à eux, c'est très bien. Et donc, merci de votre générosité, merci d'avoir recueilli ces témoignages, merci de nous apporter une dimension qui a été donnée par des personnes qui ne peuvent pas obligatoirement être présentes aujourd'hui. Donc, encore merci beaucoup, bravo à vous et bonne journée intergénérationnelle.